Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1998, Sophie Barouillet avait l'excellente idée d'inviter dans son émission « Musique à voir » un peintre, Bernard Dufour, pour parler de Wojciech et Loulou, les opéras de Alban Berg, qui étaient alors l'un et l'autre présentés à Paris cette année-là. Amoureux de Berg, Bernard Dufour évoquait le moment particulièrement tragique et violent de sa vie où il avait rencontré ces deux œuvres avec lesquelles il entretenait depuis une relation très profonde. Peintre des femmes, de l'amour et du désir, dans le langage franc et cru qui le caractérisait, Bernard Dufour disait là avec passion la fascination qu'exerçait sur lui le personnage de Loulou, celui de Marie dans Wojciech, en expliquant comment les deux opéras de Berg avaient rencontré en lui ce qui était l'objet de sa propre quête à travers la peinture. Musique à voir, Bernard Dufour, autour de Wojciech et Loulou d'Alban Berg, diffusé la première fois le 23 avril 1998 sur France Culture.
Musique à voir, Sophie Barouillet. Bonjour à tous. Loulou et Wojciech, les deux opéras d'Alban Berg, sont présentés à l'Opéra Bastille et au Théâtre du Châtelet à Paris. Et connaissant la passion du peintre Bernard Dufour pour ces deux opéras, c'est avec lui que nous allons évoquer les figures de Loulou et de Marie, deux figures de femmes très troublantes. Et peut-être pour introduire les propos de Bernard Dufour, j'aimerais vous lire des extraits d'une lettre d'Alban Berg à propos de Wedekind et de Loulou. À Frida Semler, le 18 novembre 1907. Parlons maintenant de littérature, de Wedekind. Cette toute nouvelle tendance qui consiste à mettre l'accent sur l'élément sensuel dans les œuvres modernes. Quelle perspicacité, chère Miss Frida. Cette tendance est tellement présente dans tous les domaines de l'art moderne et je pense que c'est une bonne chose. Nous avons fini par admettre que la sensualité n'est ni une faiblesse, ni une abdication de la volonté, mais au contraire une force immense qui nous habite, le point d'ancrage de tout notre être et de toute notre pensée.
Ihr stolzen Herren, ihr lebenslustigen Frauen, mit heißer Wollust und mit kaltem Grauen die unbeseelte Kreatur zu schauen, gebändigt durch den menschlichen Genie. Man sieht in den Lust- und Trauerspielen Haustiere, die so wohlgesinnten fühlen. Ein blasser Pflanze kostet die Tequilen und schwelgen im behaglichen Geplärr wie jeder andern unten im Parterre. Was schadet ihr, das viele schönet ihr, Das, meine Damen, seht ihr nur bei mir. Sie sind ein Tiger, der gewohnheitsmäßig, dass in ihr Vogel läuft, hinunterschlingt. Den Bären, der von Anbeginn gefräßig, bei späten Nachbarn hoch zu Boden zieht. Sieh die kleinen amüsanten Affen, aus Langeweile seine Kunst verpaffen. Talent, doch sind ihm jede Größe, nun poppt der Tipp, er frech mit seiner Blöße. Sie sehen in meinem Zelte, meiner Seele, so ja gleich hinter Vorhang ein Kamel. Sie sehen auch das Gewirr aus allen Zonen, Reptile, Räusche, die den Lüften wohnen. Sie sehen ein Krokodil und andere mehr. Ja, bring mir unsere Schlange her. Die war geschaffen, Unheil anzustiften, zu locken, zu verführen, zu vergiften, zu morden, ohne dass es einer spürt. Ein süßes Tier sei ja nur nicht geziert. Du hast kein Recht, holst durch Miauen und Fauchen die Ungestalt des ist jetzt nichts Besonderes dran zu sehen. Doch warten Sie, was später wird geschehen. Ob alles macht, fragt sie an ihren Platz. Die süße Unschuld, meinen größten Schwarz. Das war das Beste zu erwähnen. Ein Schädel zwischen eines Raubtiers Zähnen. Wisst ihr den Namen, den der Raubtier führt? Verehrtes Publikum! Hereinspaziert!
Bernard Dufour, vous êtes peintre et vous avez une passion, un rapport très très fort avec les deux opéras de Berg, Wozzeck et Loulou. Et j'ai trouvé intéressant de vous laisser en parler. Vous n'êtes pas musicologue, vous aimez beaucoup la musique, mais vous n'avez pas un discours spécifique sur la musique. Vous avez un rapport plutôt personnel, très fort avec ces deux opéras, avec les personnages de ces opéras, en particulier avec Marie et avec Loulou. Et je pense que ça serait intéressant que vous nous racontiez comment vous avez établi ce rapport intense qui perdure, dont vous parlez dans vos écrits, je pense à Ophir et à d'autres livres que vous avez écrits, et qui semblent être vraiment habiter votre vie. Loulou et Wozzeck font partie de votre univers.
Vous savez, la musique a d'abord fait partie de mon univers quand j'étais étudiant à l'Institut agronomique avec Rovrier. C'était au début de l'occupation et on allait, avant d'être envoyé en Allemagne, on allait à toutes les répétitions de Karajan et compagnie, etc. J'avais une grosse discothèque chez mon père. Et on organisait des soirées d'amis étudiants de l'agro et des jeunes médecins, etc. Et donc on était devenus très forts en musique, mais uniquement en audition, en écoutant des disques. Et donc après Debussy, l'Équateur, etc., tout à fait naturellement, après la guerre, en rentrant d'Allemagne, on avait continué un peu cette habitude, et je me rappelle, les derniers disques que j'ai achetés en 78 tours, c'était la suite lyrique de Berg. Et le premier en 33 tours, c'était l'Ode à Napoléon de Schoenberg. Puis après, il y a eu le domaine musical, et Boulez, et les Viennois. Berg et Schoenberg et tout ça étaient tout à fait dans ma vie à ce moment-là. Mais strictement, écoute de disques sans rien comprendre et rien connaître de la musique. Bon, c'était purement de plaisir. J'achetais des disques. Souvent, j'en achetais dans une boîte qui a disparu, qui s'appelait la Boîte à Musique, qui était un très beau magasin, 1930, rouge et noir, magnifique, en haut du boulevard Raspail, au carrefour Vavin. Et moi, j'avais un atelier rue de la Grande Chaumière. Et en mai 53, ma première femme, Anne, se tue d'un coup de revolver, rue de la Grande Chaumière, dans mon atelier. Et donc, en rentrant, un jour, je trouve un pistolet par terre, et ma femme venait, Anne, venait de mourir, elle était encore chaude, le sang coulait. Et bon, très peu de jours après, descendant le boulevard Raspail et regardant par habitude la vitrine de Lévi Alvarez, de la Boîte à Musique, je vois la pochette du disque de Mitropoulos, qui était le disque de Mitropoulos à ce moment-là, le premier enregistrement de Loulou en 33 tours. Et l'image montrait une femme baignant dans son sang. J'entre dans le magasin, j'achète ce disque, et Madame Lévi Alvarez, qui me connaissait, me dit « Mais Dufour, pourquoi est-ce que vous achetez ce disque ?» Et je dis « Ma femme vient de se tuer, comme sur cette image. » Donc il y avait il y a eu une très très forte collusion entre ma vie, ce que je venais de vivre, et Wozzeck. Ah oui, je disais Loulou tout à l'heure. Oui. Wozzeck. C'était le premier enregistrement de Wozzeck. Bon, voilà comment je suis entré dans Wozzeck.
Et vous l'avez écouté,
Oui, je l'ai écouté immédiatement et naturellement j'étais complètement obsédé par ce blout du sang de sous la lune. Lolo, c'est devenu pendant très très longtemps une image. J'ai été hanté par ce suicide pendant des années. Et le blout de Berg a accompagné pour moi toutes ces années-là.
Margaret, du bist so heiß, wart nur, wirst auch kalt werden. Kannst nicht singen.
Ich habe Land, da Martinet und lange Kleider, Martinet. Denn lange Kleid, der spitze Schuh,
En deux ou trois, je ne me rappelle pas exactement la date, il y a eu la création de Wozzeck à l'opéra par Boulez.
Avec Jean-Louis Barrault qui faisait la mise en scène, c'était en 63.
Peut-être, oui, et les décors de Masson, horribles. Le tambour majeur est un véritable monstre d'opérette, ce qui est dégueulasse. Et c'est une soirée formidable, vous voyez, en robe de soirée, smoking et tout ça, c'était magnifique, tout ça. Et donc j'ai revu ça. Et puis après, plus tard... Bon, ça ne m'a rien apporté par rapport à l'opéra, à l'enregistrement, plutôt découragé. J'ai oublié ça assez rapidement. Pas la musique de Boulez, naturellement, mais toute la mise en scène et tout le décor horrible. Et bizarrement, alors, bon, j'avais une grande pratique de tous les opéras de Mozart, etc., naturellement. Et très bizarrement, la passion que j'avais pour ces opéras de Mozart... ne m'a jamais incité à connaître les textes, à entrer dans les textes. Quand je commençais à me plonger dans les textes des livrets, très rapidement, ça m'ennuyait, et je laissais tomber, et je continuais à écouter Don Juan sans très 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 bien savoir tout ce qui se passait exactement. Et puis pour Loulou et Wozzeck, c'était tellement... Wozzeck était tellement image de ma vie, comme ça, que j'ai voulu savoir exactement pourquoi Wozzeck tuait Marie. Et ce qui s'était passé, et quelle était la liaison entre la jalousie, l'amour et la mort, et le suicide. Parce que pour moi, l'amour, comme chez Proust avec Albertine, ça débouche toujours un jour sur la mort. On pourrait les liaisons amoureuses, les amours se terminent toujours très 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 mal. Je me suis plongé dans le livret de Wozzeck, et puis après Loulou, je me suis aussi plongé dans le livret de Loulou. Et pourquoi est-ce que j'aime tellement Berg et ces musiciens comme ça qui ont lié ? Moi, quand j'associe Berg, quand je pense à Berg, comme je ne suis pas un musicologue, je ne l'associe pas nécessairement à Schoenberg et à Webern. Je l'associe plutôt à Mahler, à Debussy ou à Puccini. Vous comprenez ? Et les interférences chez Mahler et chez Berg entre la vie et l'œuvre est quelque chose qui, moi... me fascine complètement, m'enchante, enfin, absolument mon terrain. Je vais redonner quand même quelques dates très rapidement. Gustave Mahler, c'est 60-1911. Debussy, 62-18. Giacomo Puccini, 58-24. Et Alban Berg, 85-35. C'est-à-dire qu'il vient, lui, 25 ans plus tard. Mais c'est très proche. Et quand il écrit le concerto à la mémoire d'un ange... Il l'écrit, après Loulou, il l'écrit en mémoire de Marion Gropius, c'est-à-dire la fille de Alma Mahler, donc la première femme de Mahler. Et là, il y a une très incroyable interférence, parce que le grand Mahler, pour moi, c'est le chant de la terre, il Kinder Toten Lieder. Mais il Kinder Toten Lieder, c'est cette musique écrite comme pour la mort de petite fille, ce qui terrorise Alma, qui lui reproche d'avoir écrit ça, et les petites filles meurent après le Kinder Toten Lieder, comme si le chant pour les enfants morts était quelque chose de prémonitoire. Et c'est assez formidable aussi l'idée que l'art, quelque part, puisse être prémonitoire de quelque chose, qu'on puisse voir dans des images de l'art, dans des images données par l'art, une image précédant ce qui va se passer, comme ça. Et ça, dans le cas de Mahler, c'est formidable. Et ensuite, alors... Ça se complique dans l'histoire Mahler-Berg, parce qu'alors ensuite Berg va écrire un formidable concerto sentimental, extraordinairement expressionniste, sur la mort d'une autre fille d'Alma, et qui elle meurt à 18 ans et qui était d'une beauté fantastique.
Thank you.
Berg fait la liaison entre cette Marion Gropius, cette merveilleuse jeune fille, et Loulou. Et il écrit le concerto à la mémoire d'un ange. En finissant, il interrompt la musique, la composition du Loulou. Il le coupe à la fin du deuxième acte. Il écrit le concerto à la mémoire d'un ange. Il y a la dernière partie du concerto à la mémoire d'un ange, l'Allegretto, est comme un chant de mort, à la fois de Marion, mais aussi de Loulou, d'une autre jeune fille. Et puis, il est piqué par une guêpe et il meurt de septicémie en 35. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de conjonction, de faisceau, d'annonce de petite jeune fille morte, d'une grande belle jeune fille de 18 ans morte, et de la mort de Loulou, ce personnage issu de Wedekind, comme ça, qui est pour moi une créature absolument de rêve, qu'on ne peut que aimer comme un fou. Et il y a des choses curieuses dans le CD là qui est de Boulez, Loulou. Il y a un petit commentaire de Boulez qui m'intrigue énormément, que je trouve une chose très très bizarre. Il dit « Loulou est une moralité, entre guillemets. Une moralité, ça veut dire une fable morale. » Et il parle ensuite de l'ascension sociale de Loulou. Comme si on pouvait analyser la destinée de cette femme, de cette créature fantastique, merveilleuse qu'est Loulou, comme ça, qui est aimée par les hommes, qui est aimée par les femmes, pour lesquelles les hommes se tuent et qui tuent aussi les hommes et devant lesquels tous ces hommes meurent, sauf son vieux père. C'est-à-dire que tout va mal comme ça. Et il n'y a pas d'ascension sociale pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ascension sociale, selon Boulez de Loulou? Elle vendait des fleurs à 12 ans sur le trottoir, bon. Et puis ensuite, elle devient modèle, et puis elle devient danseuse, et puis elle est mêlée dans le deuxième acte à une vie parisienne très brillante et très douteuse, avec des personnages extraordinairement douteux. Et puis elle devient putain, et elle se retrouve comme avant. Et ce qu'il y a d'étonnant dans cet opéra de Loulou, c'est que Loulou, à plusieurs reprises, jouit sur scène, jouit littéralement sur scène.
Ce qui se passe d'ailleurs quand on dit, entre guillemets, qu'elle est prostituée, elle a du plaisir, elle supplie Jacques Léventreur de rester. Elle a envie de lui, elle est dans le désir.
Elle le supplie, dans la dernière scène à Londres, quand elle est putain, son premier client, le professeur de médecine, qui est le muet, comme ça. En sortant de la chambre, c'est un appartement, il y a une entrée, la chambre où elle va baiser avec son client, et quand elle sort de la chambre, elle dit « Comme cet homme m'a excité !» Comme cet homme m'a excité, en allemand « aufgeregt », c'est-à-dire, on pourrait traduire comme « cet homme m'a fait mouiller », comme ça. Ce qui est inouï. Et ensuite, quand elle a son troisième client, Jacques, qui va l'éventrer, elle lui dit « Ne me fais pas attendre plus, viens vite. Elle a toujours de la hâte à jouir. Et il y a encore une autre allusion à cette jouissance de Loulou, à cette jouissance. Jamais aucun opéra n'a montré une chose pareille. Et moi, ce qui me fascine complètement, comme dans les tableaux de Chopin, c'est le rapport au réel sexuel des femmes. C'est pas on n'est pas dans le symbole, là. À un moment, son vieux chigole, je viens la retrouver, je pourrais retrouver dans quelle scène. Dans l'acte 1, la scène 2. Et alors, il vient la voir, il voit le portrait, il lui dit « Oui, c'est bien toi, oui, c'est toi. Il y a longtemps que je t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu apprends encore le français ?» Enfin, une conversation comme ça. Et Loulou lui répond à voix basse, elle est allongée, elle est à voix basse comme ça. Elle lui dit « Je reste couché, je dors. » Et Chigolch, le vieux, lui dit « Ah, c'est très bien. Et après, qu'est-ce que tu fais ?»« Je m'étire. » Je m'étire jusqu'à ce que ça craque. En allemand, le mot est kraken, krakt. Et quand ça a craqué, ce qui est vraiment très étrange, et quand ça a craqué, et elle lui répond comme ça, elle l'envoie promener, elle lui dit « qu'est-ce que ça peut te faire ?» Mais il est excité et il lui caresse le genou. Ça veut dire qu'elle s'étend et elle jouit là encore. Est-ce qu'elle se caresse ou pas? J'en sais rien. Elle attend que ça craque. Hein ? Comme ça. Je trouve ça fantastique, vous comprenez ?
Ist das?
Meine Schwester, sie ist verrückt.
Verrückt? Du scheinst eine schöne
keine Zeit. Ich muss nach Haus.
Sie können morgen zu Haus eine Ausrede gebrauchen.
Wie viel willst du denn? Viel Geld hab ich nicht.
Ich verlange keine.
Soll ich bis morgen hier bleiben? Das klingt verdächtig. Wenn ich schlafe, kehrt bei mir die Tasche.
Nein, das tue ich nicht. Das tut niemand.
Bernard Dufour, chez Marie, dans Wozzeck, la sensualité est beaucoup moins développée. C'est plutôt la brutalité.
C'est vrai.
Et le côté pessimiste de l'amour impossible, de l'amour qui, de toute manière, sera trahi, et de l'amour chez les gens démunis, comme c'est le cas pour Wozzeck et Marie, dont on n'arrive même plus à contrôler le flux.
Oui, c'est vrai. Le Wozzeck est tout à fait... simple par rapport, simple et réaliste comme ça. Il y a quelque chose de très réaliste, hein. C'est un fait divers, brutal, qui a une très grande réalité. Je veux dire, c'est un fait divers comme il peut s'en passer. Bon, c'est un soldat, il a Il a une liaison avec une femme, il a un enfant d'elle, et naturellement, cette femme, elle est comme toutes les femmes. Quand elle voit passer un très beau mec dans la rue, elle a envie de se le payer, comme ça, et elle se le paye. Mais et donc, elle couche avec le tambour-major, et elle le fait entrer dans sa chambre. Le tambour-major passe devant la maison de Marie, et elle le fait, il lui fait la cour, et elle entre, elle ouvre la porte, et elle entre. On ne voit rien, on n'entend rien, mais elle couche avec lui, naturellement. Et à ce moment-là, sa voisine, qui a très bien compris ce qui s'est passé, Grete, je crois, a très bien compris, elle est jalouse, parce qu'elle voudrait bien se payer le tambour-major, elle aussi, et donc elle est jalouse, et elle va le dénoncer ça, elle va en faire part au malheureux Wozzeck. Et lui, qui a toujours des soupçons, comme tous les hommes sont hantés par le soupçon de la jalousie. C'est la constante de l'amour. Dès qu'on aime une femme, on devient immédiatement jaloux. C'est impossible que ça fonctionne autrement. Et donc, il devient de plus en plus soupçonneux. Il l'emmène un soir faire une promenade au bord d'un étang, sous la lune. Et là, il devient pressant. Elle est inquiète. Elle trouve Wozzeck extrêmement nerveux et inquiétant. Elle prend peur. Et à ce moment-là, Wozzeck sort son couteau et la poignarde. Il la poignarde, c'est au bord de l'eau, elle tombe dans l'eau, et le sang, l'eau se remplit de sang. Comme ça. Et à ce moment-là, il y a le sang partout. Et Marie est morte. Et Wozzeck revient à la petite ville, va se saouler la gueule dans un taverne de soldats. Et là, on voit une Gretchen qui a du sang sur les mains. Donc il prend peur, il retourne dans la forêt au bord de l'étang, et à ce moment-là passe... Pour chercher le couteau. Et à ce moment-là passent ces deux persécuteurs, son capitaine et le médecin, qui passent leur temps socialement et par perversité à torturer ce pauvre Wozzeck. Et là, c'est formidable. Et ça rejoint la dernière scène de Loulou. Ils disent « Comme il fait noir, comme il fait noir !» Ils ont des pressentiments, comme ça. « Comme il fait noir, partons, partons !» dit le médecin. Ils ont une trouille épouvantable, ils s'enfuient. Wozzeck, ils entendent quelque chose. Ce qu'ils entendaient, c'est Wozzeck qui arrive et qui cherche le couteau. Et qui dit « Blout, blout, blout !» Il trouve le couteau, il finit par le retrouver et il revient. Et l'opéra se termine. Et l'opéra se termine sur, je ne me trompe pas, oui.
Sur le suicide de Wozzeck qui se laisse
Wozzeck se laisse couler noir dans l'eau.
Oui.
Oui, on entend, mais on ne sait pas ce qui se passe. En fait, tout ça se passe dans la nuit et on ne sait pas très bien ce qui se passe.
Sind Sie auch Akrobat?
Sie tun mir Hände nicht helfen, meine Stirn zu verzieren. Komm zu Ende.
Du kannst dich schon
lassen. Was wäre noch möglich? Hab ich morgen eine Ehe, seine Zeitvertreib finde, wo ich von Abgrund zu Abgrund geschaut, in Tempo, in Nacken und dich vor dir. Ich mich scheiden lassen, lässt man sich scheiden, wenn die Menschen ineinander hineingewachsen und der halbe Mensch mitgeht. Siehst kein Mensch, die Kraft vor Hoffnung drauf,
D'une certaine manière, on pourrait dire que ces deux opéras sont fondés sur la condition sociale de ces deux femmes. Si elles oui. n'étaient pas toutes les deux dans cette ce dénuement absolu, leur condition aurait probablement leur
Moi,
vie.
Je ne crois pas à ces trucs-là. Quand Pasolini a été assassiné sur une plage par un voyou homosexuel, on a dit c'est de la faute de la société qui a empêché Pasolini d'exploiter son homosexualité librement. Tous les journaux ont été pleins de cette explication. Pasolini, il a été assassiné parce qu'il aimait les voyous homosexuels et que ça se déroule comme ça. C'était pas un opéra, c'était la réalité. Alors ces trucs-là, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse même pas du tout. Et les conditions, justement, de conditions sociales, d'élévation ou pas, ou etc., de Marie qui reste ou de Lulu qui s'élèverait, soi-disant, parce qu'à un moment, elle aurait des salons très riches et qu'elle serait devenue la femme du docteur Schön. Bon, tout ça, c'est pas très... Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, et ce qui me fait la communication formidable entre Marie et Lulu, c'est que elles meurent dans leur sang, poignardées sous la lune. Et que, donc on est en plein là dans l'image du sang menstruel. Et c'est ça qui est formidable. Et comme Loulou ne va pas cesser de renforcer toutes les situations esquissées dans votre sec, là, dans votre sec, on a ça. Les ténèbres, la nuit, la lune et le sang. Et le sang, évidemment, du ventre. Quand on poignarde dans le ventre. Et c'est complètement explicité, ça, dans la dernière scène de Loulou, quand elle est avec Jacques l'éventreur, elle l'emmène dans sa chambre. Et là, on ne sait pas ce qui se passe, mais à un moment, on entend un grand cri, non, 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 un grand cri de mort. C'est la mort de Lulu, qui est poignardée. Et à ce moment-là, Jacques, on ne sait pas encore qu'il est poignardé, Jacques sort de la chambre, il a un énorme couteau ensanglanté à la main, ensanglanté, comme dans votre sec. C'est exactement comme dans votre sec. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Il est entré dans une pièce, il y a un clair de lune très violent, ils enlèvent la lampe, la lune éclaire très violemment à travers les carreaux dans le toit, le sol, et fait deux flaques de lumière, là. C'est-à-dire que est absolument recréée la lumière lunaire de l'étang de votre sec. Et ça, c'est formidable. Et non content de ça, Jacques a son couteau ensanglanté à la main, il voit Geschwitz par terre, et il lui enfonce son poignard, son couteau, ensanglanté du sang de Lulu, il lui enfonce son couteau dans le ventre. C'est-à-dire qu'on a un formidable redoublement de sang, pas de sang menstruel, mais du sang du ventre des femmes. On est très très près du sang menstruel. Sous la lune, tout ça est en plein là-dedans, comme ça. Et je trouve ça absolument fantastique. Et quand même, Berg est tout de même un très 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 drôle de bonhomme avec son côté de bon gros bourgeois jouissif comme ça. Il a un très beau visage sensuel, un peu gras comme ça. Cet arrêt de cet opéra pour faire le concerto à la mémoire d'un ange pour cette jeune fille, ces deux jeunes filles, Marion, l'une réelle et l'autre Loulou qui hante. Alors ces histoires de putain, de trucs sociaux, etc., moi ça m'intéresse pas du tout. Et ce qu'il y a de formidable, juste une minute, c'est que il interrompt pour écrire le concerto pour la mémoire d'un ange, mais il a quand même avant écrit complètement la dernière strophe, le dernier chant de l'opéra de Loulou, qui est la plainte de Geschwitz. Geschwitz, elle est poignardée, mais elle ne meurt pas instantanément. Jade s'enfuit, et elle reste, et elle dit sur scène, Lulu, lass dich noch einmal sehen. Lulu, laisse-toi voir, encore une fois. Et je serai toujours près de toi et tu seras toujours près de moi. Et laisse-toi voir encore une fois. C'est absolument fantastique.
Handtuch haben die Leute. Mit dir geht es auch bald zu Ende.
Bernard Dufour, est-ce que l'on peut dire que les personnages de Loulou et de Marie dans Wozzeck représentent pour vous des figures idéales de la femme ou peut-être même la figure de la femme ?
Non, excusez-moi, mais je ne crois pas non plus à ce mythe de la femme. Et je suis trop occupé à mon atelier par, justement, je ne peux pas supporter, depuis que je m'occupe des femmes, cette idéalisation de la femme, comme ça. C'est ça, quelquefois, qui m'embête un peu dans la peinture de Watteau. On a l'impression que Watteau peint toujours la même femme. Bon. Chez Goya, on n'a pas du tout l'impression que Goya peigne toujours la même femme. Il peint des femmes qu'il a aimées comme ça. Et moi, je n'ai jamais peint que des femmes que j'ai aimées.
Et pas la femme.
Et pas la femme. La femme, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Parce que je ne connais que des femmes. Des femmes avec qui la vie est très difficile, très dure, très, très difficile à construire, très...
Avec la jalousie.
Dans laquelle la jalousie occupe une place monstrueuse, et qui en même temps, la jalousie, ça permet de dramatiser et de théâtraliser la vie. Et cette théâtralisation de la vie, à travers la jalousie, c'est un mode de vie fantastique. C'est-à-dire que c'est prodigieusement excitant, que ça tient l'amour et l'esprit dans un état comme Lulu à son premier client, comme il m'a fait mouiller, comme il m'a aufgeregt, comme il m'a dressé, comme il m'a fait bander, comme il m'a fait mouiller, comme il m'a excité, comme je suis excité par cette théâtralisation de ma vie à travers l'amour que j'ai pour une femme.
Thank you.
Vous avez entendu des extraits de Loulou et de Wozzeck dans les versions dirigées par Pierre Boulez et Jeffrey Tate et du concerto à la mémoire d'un ange dirigé par James Levine. Musique à voir, Sophie Barouillet avec aujourd'hui le peintre Bernard Dufour. Pour ceux que ça intéresse, le texte de cette émission sera publié dans les tout prochains jours aux éditions Bernard Dumerché avec des dessins originaux de Bernard Dufour. La semaine prochaine, la musique et la mode avec Christian Lacroix et Agnès B. Mixage Jean-Frédéric, réalisation Jean-Charles Dieval. À la semaine prochaine. Vous venez d'entendre Bernard Dufour autour de Wojciech et Loulou de Alban Berg au micro de Sophie Barouillet dans Musique à voir, diffusée la première fois le 23 avril 1998 sur France Culture.